Culture, il est 15h. Culture Société, Abdelwahab Medeb.
Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb. Je remonte jusqu'aux années 1200-1100 avant notre ère pour trouver une étrange analogie entre ce qui se passe de nos jours au Proche-Orient, en Méditerranée orientale. Pour cela, je me réfère à l'archéologue américain Eric Klein et à son livre 1117 avant Jésus-Christ, paru l'an dernier à Princeton University Press. C'est la période de la mutation de l'âge de bronze à l'âge de fer. L'effondrement de Troie, sujet de l'Iliade et d'une part de l'Odyssée, s'inscrit, selon les indices archéologiques, dans un étrange contexte de la destruction et de l'effondrement de toutes les cités de Grèce, de Crète, de Chypre, de l'Anatolie, de la Syrie, jusqu'au nord de la Mésopotamie. Toutes ont été dévastées quasi simultanément, Mycène, Pylos, Tirinthe en Grèce, les cités hittites d'Anatolie, de Haute-Mésopotamie, Chypre, dont les cités ont été dévastées. En Syrie, le même sort a été subi par Ougarit, Alep, Emar, Kadesh, Katna. Plus au sud, n'ont point été épargnés Akko, Majedo, Ashod, Ashkelon. Cet effondrement politique de la Méditerranée orientale a engendré 4 siècles de désert culturel. Seule l'Égypte a résisté. En effet, ces événements sont relatés sur les murs du temple de Medinet Habu. C'était au temps de Ramsès III. Cette inscription date de 1177. Elle dit « L'invasion du delta par ce qu'ils appellent les peuples de la mer et par leur défaite face à l'armée égyptienne qui a ainsi sauvé le pays du péril universel qui s'est abattu sur toute la région. » L'identification de ces peuples de la mer n'est pas sûre. On suppose qu'il s'agit d'envahisseurs venus du nord auxquels se sont agglomérés nombre de pirates et d'aventuriers méditerranéens, dont même des Grecs. Lorsque l'on observe ce qui se passe aujourd'hui, depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, l'analogie est saisissante. En effet, l'on voit sous nos yeux les frittements de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de la Libye, laissant de côté le cas de la Tunisie qui continue qu'inca son expérience vers une éventuelle réalité démocratique, seule l'Égypte semble avoir été jusque-là préservée du cataclysme qui saisit la région. Mais cette survie de l'Égypte n'est pas appréciée par les Occidentaux tenant de l'universalisation de la démocratie. C'est qu'un coup d'État a interrompu, en effet, un processus démocratique. Le débat est intense en Égypte pour refuser même le mot coup d'État, arguant le fait que le régime du président Morsi, l'islamiste, était des plus populaires et que l'appel au recours au maréchal Sisi l'était tout autant. L'intervention de l'armée et la destitution des islamistes est, selon nombre d'Égyptiens, parmi eux, nombre d'intellectuels, est plus légitime que la légitimité démocratique, ce qui choque profondément la conscience démocratique occidentale. Ce à quoi répondent les Égyptiens, mais ces étrangers d'occidentaux ne connaissent rien à la réalité locale. Le pays, sous le gouvernement islamiste, a connu le péril, le risque d'une disparition, d'une contamination par la vague islamiste ravageuse sous toutes ses nuances, des modérés aux djihadistes. Je vous propose d'esquisser la ligne de défense égyptienne qui légitime le coup du 3 juillet et le processus d'éradication des islamistes, des frères musulmans, qui en a été la conséquence. Les Égyptiens pensent que, depuis 2011, eux-mêmes, comme toute la région, ont subi un plan d'attaque pensée et conçue par les Américains qui ont envisagé que les seuls qui pouvaient en finir avec l'ère des dictatures, ce sont les frères musulmans et leur sphère internationale. Pour eux, un processus de démocratisation peut être enclenché avec eux dans la région. Cette perspective est notamment soutenue par des forces régionales, la Turquie d'Erdogan d'une part, le Qatar de l'autre. Ce dernier diffuse auprès des Occidentaux la thèse du soutien nécessaire à ce qu'ils appellent l'islamisme modéré pour conjurer le djihadisme et le radicalisme islamiste. Or, il est patent que le flux de l'un à l'autre n'est pas rompu. Ne voyez-vous pas que l'islamisme radical partout prospère, jusque dans nos lycées, ici, en France, où la tentation djihadiste constitue une réponse romantique à l'exclusion. En tous les cas, l'effet du coup égyptien a perturbé tous ces calculs américains. Son effet sur la Tunisie, par exemple, a donné l'avantage au camp séculier face aux islamistes. Ce qui s'est passé en Égypte le 3 juillet 2013 pose la question suivante, majeure. Dans quel contexte culturel, socio-économique, politique, faut-il penser la question de la démocratisation comme processus qui nous sortirait de la fatale alternative dictature quasi ou pseudo-séculière, dictature théocratique. Nous recevons avec joie l'ami Gilles Kepel. Faut-il le présenter ? Nous ne le pensons pas, mais en tous les cas, il a cet avantage. Il aurait été le premier ou parmi les premiers à avoir annoncé le phénomène islamiste lors de son tout premier livre qui est inspiré de sa thèse universitaire « Prophètes et pharaons ». Gilles Kepel, comment vous dire, qu'en est-il ? En effet, ce livre est paru au milieu des années 80, je crois.
Oui, c'est ça.
Après un séjour en Égypte de plusieurs années, voilà. Au début des années 80.
Tout à fait. J'ai passé 3 ans en Égypte entre 1980 et 83 pour aller étudier les mouvements islamistes. Un sujet qui, à l'époque, semblait totalement absurde, voire loufoque. Et y compris pour moi d'ailleurs, parce que j'étais un gauchiste normal du quartier latin, mais j'avais été décontenancé par le fait que les gens de mon âge, un certain nombre d'entre eux, dans les universités égyptiennes, au lieu d'être comme moi, trotskiste ou maoïste, même s'il y en avait quelques-uns, se laissaient enchanter par ces sirènes politico-religieuses. Et donc j'ai voulu aller voir de quoi ils ressortaient exactement. Et il se trouve que pendant que j'étais là-bas, les gens que je suivais, avec prudence, hein, parce qu'à l'époque de Sadat, on était vraiment très très surveillés et j'avais beaucoup moins de facilité, puis j'étais plus jeune que je n'en ai aujourd'hui par exemple, ils ont tué Sadat. Donc les gens que je suivais ont tué Sadat, et d'une certaine manière c'est ça qui, 2 ans après la révolution iranienne de 79, a mis sur le devant de la scène cet islamisme sunnite, à la fois dans sa forme radicale et violente, ceux qui avaient tué Sadat et puis les autres, et puis aussi ce que vous avez appelé, avec les guillemets qui conviennent, l'islamisme modéré, c'est-à-dire là, les frères musulmans. Et puis finalement, depuis, je ne me suis jamais arrêté, je suis toujours là. Le sujet a subi un certain nombre de transformations, de bouleversements. J'ai plusieurs fois cru moi-même que je m'étais trompé, qu'il fallait abandonner cette idée, etc. Mais d'une certaine manière, il y a la persistance de ce trend qui se transforme, qui mute d'une certaine manière. Par exemple, on a pu penser que les révolutions arabes avaient enterré définitivement Al-Qaïda. Effectivement, Al-Qaïda, dans sa forme pyramidale, léniniste d'une certaine manière, telle que nous la connaissions, n'est plus. Mais il y a un mutant d'Al-Qaïda qui s'appelle aujourd'hui l'État islamique, autrefois l'État islamique en, en Irak et au Levant, oui, plus connu sous sa forme arabe de Daesh, c'est-à-dire Dawla al-Islamiyya fil Irak wa Sham, et qui est lui-même une réélaboration de la forme Al-Qaïda, du djihadisme terroriste d'Al-Qaïda, mais en s'adaptant au monde postmoderne et en ayant adopté une forme, si j'ose dire, réticulaire, une forme de réseau, presque de rhizome, si on ose citer le malheureux Deleuze dans ce contexte, dont on reparlera tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur votre apocope historique tout à l'heure, que j'ai trouvé très, très bienvenu. J'ai beaucoup aimé votre comparaison, en tout cas dans sa première partie, parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est d'une ampleur, on dirait en anglais d'une magnitude, que personnellement je n'avais jamais expérimenté en 35-40 ans de métier à suivre ces choses au quotidien. Et alors bien sûr, je n'avais pas pensé à ce que vous évoquez, que c'est cet événement que j'ai étudié, parce que moi, avant de faire de l'arabe, j'ai fait de la philosophie grecque classique, donc ce sont des choses qui me sont relativement familières, enfin comme dilettantes, y compris le fameux pylône de Ramsès III à Médinet Abou, qui est aussi, vous savez, le temple où les islamistes en 1997 ont massacré une grande quantité de touristes. Mais cet effondrement des cités que vous avez mentionné au début, ça, je trouve que c'est très fort, cette comparaison, parce que c'est bien à cela qu'on assiste aujourd'hui, cet effondrement graduel des cités. Alors, pour le mettre dans une perspective laquelle je me sens plus à l'aise, même si j'aime beaucoup le ressourcement dans l'Antiquité, personnellement, je crois que ce à quoi on assiste, dans l'histoire courte ou à moyen terme, c'est l'effondrement d'un système qui a été mis en place il y a un siècle, et dont le nom honni par tous les Arabes, c'est bien sûr, ce sont les accords Sykes-Picot. J'ai le souvenir, quand je préparais mon...
Le grand complot, à voilà. Partir de là, d'ailleurs, la complotique Exactement, est devenue oui. presque voilà. un prurit chez les Arabes.
J'ai le souvenir quand, en 2011-2012, je parcourais la région pour mon récit de voyage Passion Arabe, mon journal 2011-2013, d'avoir longuement interviewé celui qui était le rédacteur en chef et l'idéologue en chef de la chaîne Al Jazeera entre le milieu des années 2000
qui,
et 2011.
On peut le dire aujourd'hui, parce que tout est révélé, est la voix officielle de l'International des Frères Musulmans.
Enfin, si elle n'est pas officielle, en tout cas, elle l'est de facto.
Et, militante, en tout cas.
Voilà, c'est oui. ça. Et donc, il s'appelle Wada Khanfar. Khanfar a été mis sur la touche pour des raisons qui ne sont pas complètement claires pour moi. Il a été celui qui a donné cette identité frériste à la chaîne et qui, notamment, a permis à la chaîne de surfer sur les révolutions arabes. Elle a assuré une couverture des événements de la place Tahrir, par exemple, au Caire, 24 heures sur 24, faisant entrer les révolutions arabes dans tous les foyers, d'Aubervilliers à Jakarta, si vous voulez. Mais en même temps, le projet, c'était de faire du surf sur ce phénomène et de toujours présenter les frères comme les intellectuels organiques de la révolution. Et par exemple, la semaine, le vendredi qui a suivi la chute de Moubarak, le 11 février 2011, le 18 donc, le cheikh Youssef El-Kardawi, qui est un Égyptien d'origine et qui est la personnalité internationale la plus connue et la plus médiatique des frères musulmans, qui tient une chronique hebdomadaire le dimanche sur la chaîne Al Jazeera qui s'appelle Sharia wal Hayat, la charia, la loi islamique et la vie, est arrivé au Caire et il s'est installé place Tahrir, dans cette espèce de joyeux désordre révolutionnaire de la place Tahrir, et il a dirigé la prière en direction de la Mecque en admonestant la société et en indiquant la ligne des frères pour sortir du chaos. Parce que tout à l'heure, quand vous parliez du recours des Américains aux frères, on en reparlera, c'est effectivement quelque chose qui revient de manière récurrente aujourd'hui dans le débat politique, si on peut appeler ça un débat politique.
On connaît les noms des théoriciens, des académiques voilà. qui sont conseillers du prince, Par exemple, Noah Feldman, c'est quelque chose de très, très étonnant. Il a un livre entier avec des thèses surprenantes pour vraiment argumenter historiquement le fait que l'islam était rule of law au départ. C'est étonnant,
oui,
ça
c'est
aussi.
Un état de droit.
Et ça, c'est le point de départ du juif orthodoxe aussi, parce qu'il est fasciné par la similarité
entre la halakha et
sur la
charia,
question de la loi chez les juifs comme chez les musulmans. Et il travaille pro domo en soutenant, en fait.
Oui, d'une certaine manière.
C'est assez étonnant.
Oui, il y a toutes sortes de choses très étonnantes qui se passent en ce
moment. Et il est vraiment, lui, le conseiller en Afghanistan, en Irak. On l'a vu dans les couloirs de la Constituante, quand les séculiers l'ont vu main dans la main avec les islamistes tunisiens. Ils l'ont foutu dehors. Ça a créé un gigantesque scandale en Tunisie, parce qu'eux, ils étaient au courant. Il y a eu plein d'articles sur lui, sur ses livres. Donc c'est vraiment profondément pensé. Il est professeur quand même de droit à Harvard, pas n'importe où.
Oui, je l'ai rencontré aux États-Unis d'ailleurs il y a quelques années. Et ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que un certain nombre de ces Américains, universitaires, politiques et autres...
Esposito aussi.
Oui, ça, lui c'est
moins d'effets.
Oui, moins d'effets, et puis moins de tenue.
Moins de poids,
enfin,
oui,
c'est ça. Et donc, en fait, je crois aussi que... Pour les États-Unis, c'était un enjeu très tactique à court terme, puisqu'ils ne sont pas, l'État américain n'est pas structurellement favorable aux frères musulmans en termes idéologiques, à mon avis. Ça serait sans doute aller trop loin. Il est en fait favorable à n'importe quoi qui permette d'avoir un ordre et des interlocuteurs afin d'éviter le chaos. Et ça, c'est très vite. Ils ont pensé que les révolutions arabes allaient engendrer un chaos qui porterait tort à la fois à l'ordre occidental dans la région, mais aussi aux livraisons de pétrole. Et ils ont vu dans les frères des partenaires pour un deal comparable à celui qu'ils avaient fait autrefois avec les tribus saoudiennes et avec le wahhabisme salafiste. C'est le deal... Le fameux deal du 14 février 1945, le jour de la Saint-Valentin.
Roosevelt
entre
le bateau, n'est-ce pas ?
Entre Roosevelt et Ibn Saud, sur le navire américain, je crois que c'est un croiseur, le Quincy, sur les lacs amers, c'est tout un programme du canal de Suez, et où Roosevelt et Ibn Saud échangent des propos qu'on échange le jour de la Saint-Valentin, c'est-à-dire amour toujours, décliné en ces termes. Mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole. Et c'est en fait ce qui rend la chose encore plus complexe que ce que vous dites. J'espère qu'on ne va pas perdre tous nos auditeurs en expliquant ça. C'est que ceux-là même qui étaient les partenaires de prédilection des États-Unis, c'est-à-dire les Saoudiens, et qui sont derrière...
Ça ne va pas entre eux, là.
Voilà. Ça,
y a... Eux, ils ont opté pour cette espèce de pérennité réactive de l'État égyptien, séculaire,
voilà.
Millénaire, le seul qui a résisté à l'époque antique que nous avons évoquée.
Il y a, si j'ose dire, de l'eau dans le gaz, quoique le gaz est plutôt le Qatar, mais effectivement, les Saoudiens, donc, qui sont aussi idéologiquement très proches de l'État islamique, de Daesh, pareil. Quand on regarde la façon dont a fonctionné, on en reviendra tout à l'heure, je suppose, Daesh avec les razzias, détruire les sanctuaires chiites, etc.
L'épopée wahhabite.
Exactement, 1802, qui va détruire Karbala, massacre ses habitants chiites, qui ensuite, lorsqu'il s'empare de la Mecque et de Médine...
Ça, c'est le paradoxe saoudien, n'est-ce pas ? Cette espèce d'idéologie officielle qui est vraiment celle de ceux qu'ils cherchent à combattre. Alors évidemment, là, ils ont inventé ce duo al-Wasatiyah, c'est-à-dire le juste milieu contre le relou, quoi.
Ça, c'est plutôt les frères musulmans. Enfin, le wasatiyah, c'est le juste milieu.
En Arabie Saoudite, l'islam officiel,
ils sont en train de se wasatiser. Oui, c'est un truc, si j'ose dire, inventé par Kardawi et par les gens qui sont derrière lui et qui s'appuient, vous le savez mieux que moi, sur cette célèbre définition de l'islam. Voilà. L'islam,
nous
c'est Ummat Wasat.
La communauté du milieu.
Du juste milieu. Donc, il y a des partis islamo-compatibles avec la démocratie qui s'appellent Hezb al-Wasat, etc. Le parti du centre, d'une certaine manière, du juste milieu. Et effectivement, ce qui est très frappant, c'est que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, à la fois à une base idéologique qui est quasiment la même que celle de Daesh. Sauf qu'on enseigne à l'université Imam Ibn Abdel Wahhab à Riyad, et ce que met en œuvre Daesh, c'est exactement la même chose en termes doctrinal. Mais est-ce que finalement on n'a pas un phénomène qui, pour les Maghrébins, l'histoire maghrébine a été vue aussi, les Almoravides conquièrent la péninsule arabique, pardon, la péninsule ibérique, excusez-moi, c'est péché.
Et un bon bout du Maghreb.
Voilà, un bon bout du Maghreb, au nom d'une idéologie assez puritaine, et puis ils se corrompent dans les douceurs de l'Andalousie, c'est le pétrole de l'époque.
Le processus khaldounien, n'est-ce pas ?
Voilà, exactement. Et qui est-ce qui arrive ensuite ? Les Almohades, El-Muwahidoun en arabe, c'est-à-dire ceux qui sont les participants, oui, du tawhid, de l'unité divine, et le kitab al-tawhid, le livre de l'unicité divine, c'est le socle idéologique d'Abdel Wahhab, c'est-à-dire des idéologues saoudiens. Et eh bien, ils arrivent et ils se débarrassent des Almoravides pourris et corrompus, etc.
Ils élargissent leur empire, voilà, jusqu'à la Tripolitaine pour le Maghreb.
Exactement. Et Ibn Tumert, le Mahdi Almohade, berbère descendu de sa montagne, là, dans le Haut Atlas, met en place cet État puritain. Alors, je ne sais pas si Abou Bakr el-Baghdadi, qui s'est autoproclamé le calife Ibrahim à Mossoul et que ses détracteurs surnomment le calife Twitter, a le même destin qu'Ibn Tumert, qui était quelqu'un qui était assez modeste aussi intellectuellement et culturellement.
Non, la comparaison est juste parce que vraiment, vous savez que les Almohades n'ont même pas honoré la tradition juridique de la Dhamma et qu'ils ont imposé aux minorités soit la conversion,
soit la mort,
soit le départ. Ce qui fait qu'avec les Almohades, a disparu le christianisme autochtone maghrébin.
Et c'est tout à fait, et c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui en Irak, où théoriquement...
Encore une fois, la seule différence, c'est que les Almohades étaient et travaillaient pour eux un Averroès, qu'il y avait ce 12e siècle splendide, Ibn Arabi, disons des dizaines de grands, éminents écrivains dans tous les domaines, de la philosophie à la tradition spirituelle, qui honoraient la seule sainteté qui compte pour moi, la sainteté de l'esprit. Il y avait cette très étrange paradoxe entre un intégrisme radical en politique et une espèce d'efflorescence extraordinaire qui a produit la Koutoubia, qui a produit la Géralda, qui a produit des splendeurs de toutes sortes dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de l'esprit. Ce qui est dramatique avec Daesh et avec les Saoudiens, c'est que la sainteté de l'esprit est le grand absent.
Ça, on ne peut pas dire que l'esprit est au poste de commande, effectivement. Et je crois que, oui, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, qui est cette manière de pousser à l'extrême l'équilibre, puisque finalement, peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi là-dessus, la référence culturelle coranique, au fond, s'efforce de trouver une sorte d'équilibre. C'est peut-être le wasat. Alors que là, on va pousser à la limite d'un côté, c'est-à-dire que le statut de gens du livre, de Ahl al-Kitab, de protégés, de tributaires, qui bien sûr sont des individus de seconde zone, mais qui ont le droit de subsister, au moins temporairement, avec leur religion, qui font que, par exemple, une femme chrétienne, juive, alors après la dhimma, on ne sait pas où elle s'étend, parce que quand les cavaliers musulmans vont en Inde, ils vont mettre
les bouddhistes
ou les hindouistes à l'intérieur, avec les déesses aux mille bras, etc.
En profitant chaque fois de ce terme obscur qu'on n'a jamais déterminé en islam, quand on parle des gens du livre à protéger, explicitement les juifs, les chrétiens et les sabéens.
Oui.
Le mot sabéen est devenu un mot valise.
Voilà, on met tout le monde dedans. Et
c'est là où on a même sauvé la secte des néo-pythagoriciens du Harran en Mésopotamie, parce qu'on avait besoin d'eux, vu toute la tradition philosophique qu'ils portaient.
En fait, c'est ce qu'on appelle en arabe la maslaha, c'est-à-dire être en fonction de l'intérêt, donc ça s'adapte. Mais alors là, on voit une rétraction. Et ce qui m'a beaucoup frappé, donc c'est ce que vous avez dit, la référence Almohade, le fait que les chrétiens de Mossoul et de Ninive l'ont appris à leurs dépens. Les malheureux yézidis, de toute façon, eux, étaient considérés comme des idolâtres et des impies.
Oui, mais quand même, Gilles Kepel, ils ont pu être présents, ils sont quand même 400 000 aujourd'hui, de nos jours, ils ont traversé 15 siècles de pouvoir islamique.
Qui a survécu autour du mont Sinjar et qui là semble avoir été, en tout cas pour l'instant, éradiqué d'une manière qui ne s'est jamais produite.
Le fameux la sourate 9, verset 5. Hein. Les païens, tuez-les, passez-les tous au fil de l'épée s'ils ne se convertissent pas.
Et ce qui est frappant, justement, c'est que moi, j'ai, dans les enquêtes que j'ai faites en banlieue parisienne et ailleurs en France, j'avais été très frappé, à Clichy-Montfermeil par exemple, par ceux qui m'expliquaient qu'au fond, quand ils avaient épousé une femme qui n'était pas musulmane, française, si j'ose dire, de souche, je voyais qu'elles étaient désormais toutes converties et dûment voilées, voire bâchées et niqabisées. Vous savez du reste que beaucoup de femmes en niqab, ce sont des Françaises dites de souche qui, tout en se réclamant d'une identité, se projetant d'une unité islamique, sont tellement sûres de leur identité française qu'elles peuvent aller provoquer la police, alors que les autres hésitent toujours un petit peu face à un État qui apparaît comme allogène et issu de la colonisation. Bref, est-ce que ce qui m'a été dit, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'entends encore ce jeune, qui était en plus adjoint au maire, qui m'explique, mais il n'y a plus de gens du livre aujourd'hui. Il y a les Juifs. Les Juifs, eux, parce qu'ils sont, quand ils pensent Juifs, ils voient les Lubavitch ou les... mais de toute façon, avec eux, on ne les fréquente pas. En revanche, les autres, là, dans la société française séculière et déchristianisée, ce ne sont plus des chrétiens, ce ne sont plus des gens du livre, ce sont devenus des kofars, des impies. Donc, il faut que pour qu'une femme non musulmane m'épouse, il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Et cette rétraction du domaine qu'on appelait le domaine libéral de l'islam, en Andalousie, nous étions tolérants... Non, mais je veux dire, c'est idéologiquement, hein, moi, je ne crois si on, pas à ces
si
termes.
On, si on le situe à l'époque médiévale, peut-être, et encore. Oui, oui. Parce que une chose réelle qu'il faut dire, ce statut de protégé dans l'infériorité et l'humiliation, pour les chrétiens, par exemple, c'était aussi une façon de les phagocyter. Et probablement, la communauté musulmane, elle a été, au départ, dès le début, le plus alimentée par les chrétiens qui se sont convertis.
Pour échapper à ce statut
d'humiliation et d'infériorité.
Tout à fait. Mais, si vous voulez, moi, je ne le juge pas en termes normatifs, hein, mais je pense que c'était une façon de sauver l'État islamique naissant, car celui-ci était extrêmement minoritaire. Et donc, ça fait prévaloir l'idéologie sur la coercition, si j'ose dire, vous voyez. Et ça, on juge, moi je ne suis pas spécialiste de cette époque, mais... qu'en gros, c'est à peu près au moment des croisades que bascule la majorité, on n'a pas de statistiques, bien sûr, l'époque, de la population des religions antérieures, essentiellement christianisme et judaïsme, vers l'islam, par exemple, en Égypte.
Très étrangement, là aussi, il faut dire tout ce que nous savons, même si cela gêne certains mythes, que ceux qui ont été le vecteur le plus important pour cette bascule, c'était les soufis.
Mmh. Oui, bien sûr, qui sont... ceux qui, justement, par leur syncrétisme même, arrivent à attirer de l'extérieur. Oui, c'est ça. Ça, c'est très, très frappant. On le voit aussi beaucoup dans l'Asie centrale, en Inde, etc. Mais, et donc, ça, c'est un phénomène tendanciel. Alors, ce qui me frappe aussi, et je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'émergence de ce que j'appellerais, si vous voulez, le grand récit salafiste dans le monde sunnite comme quelque chose à quoi... quasiment plus rien ne semble pouvoir résister.
Ça a contaminé, on peut le dire, quasi intégralement le sens commun des musulmans.
C'est très frappant, parce que, y compris ceux qui sont pieux et croyants et qui ne se définissent pas comme salafistes, hésitent aujourd'hui à les critiquer sous prétexte ou en arguant qu'ils ne veulent pas faire le jeu des ennemis de l'islam. Et c'est là toute la machine de guerre que constitue le pseudo-concept d'islamophobie, qui est destiné à protéger salafistes et islamistes en disant « il est interdit de critiquer quoi que ce soit dans l'islam ». Alors moi, j'estime que dans la démocratie française d'aujourd'hui, on a le droit de critiquer toute doctrine, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, la laïcité, le
dans
communisme, etc.
Dans la tradition française, oui, et puis après... héritée de... de ce très grand, grandiose, même 18e siècle, Gilles Kepel.
Exactement, et ça, après, là, ça s'arrête à partir du moment où on incrimine des individus pour leur foi ou leur croyance, leur comportement, leurs choix sentimentaux, sexuels, ou leur race, etc. Mais la doctrine, par définition, doit pouvoir être librement critiquée. Or, là, elle ne l'est plus. On l'interdit de la critiquer. Moi, ce qui me frappe énormément, je prends beaucoup le taxi parce que je n'ai pas de voiture et puis parce que je m'emmène à la télévision, à la radio ou je ne sais trop quoi. Hein.
Et j'ai rencontré beaucoup de musulmans
dans les taxis,
chauffeurs de taxi.
Dans ma proportion privée, un chauffeur sur cinq est salafiste à peu près. Et comme ils m'ont vu souvent à la télé ou autre et que du coup, je leur parle arabe, donc quand ils m'ont identifié, l'échange est généralement cordial et parce qu'ils et puis je connais les oulémas dont ils se réclament et donc ça leur arrive assez rarement qu'un gaouri, c'est-à-dire un blanc comme moi, sache ça. Et ce qui me frappe énormément, voilà des gens qui sont soit des convertis, soit des jeunes nés ici. Je n'ai rencontré
des espèces de born again, non ?
Oui, oui, c'est ça. Des nés ici dans des familles maghrébines. Généralement un contexte où les parents n'étaient pas tellement religieux, ils avaient la foi du charbonnier, et ils ont été pris en main par les prédicateurs.
Mais là aussi, Gilles Kepel, parce que vous travaillez tout autant sur l'espace du monde arabe, particulièrement pour ce qui concerne l'islam et l'islamisme, bien sûr l'islamisme avant tout, mais aussi des enquêtes sur la France. D'ailleurs, vos deux derniers livres, c'est assez extraordinaire de le dire, l'un s'appelle Passion arabe, l'autre s'appelle Passion française. Vous ne trouvez pas que là, il y a véritablement un problème pour ce qui concerne la France, ce que vous venez de dire, et qu'il n'y a pas un dispositif assez dissuasif pour limiter les dégâts? Et parce que ce que vous dites là, cette immense intervention du salafisme sur la jeunesse musulmane de la deuxième ou de la troisième génération, n'est pas tombée du ciel. C'est des politiques d'État. Énormément d'argent derrière. Et comment a-t-on laissé faire ? J'ai rencontré une fois au Caire le conseiller militaire de l'ambassade de France qui a passé une dizaine d'années en Arabie Saoudite, de la même fonction. Et vous connaissez bien le prince, chef des services, rappelez-moi son nom.
Turki.
Voilà, Turki. Et lui a dit ceci, une voix, pour nous, le travail en France est déjà fait. On passe ailleurs.
Alors, effectivement, ce qui est très frappant, c'est pourquoi
Comment la République laisse-t-elle faire ?
C'est pourquoi j'ai appelé ces deux livres, l'un Passion arabe et l'autre Passion française, c'est parce qu'il y avait un effet de capillarité entre les deux territoires, dont précisément, alors même s'il ne faut pas en exagérer le nombre, mais l'influence est frappante, un mouvement comme Daesh, comme l'État islamique, est le symbole le plus frappant.
Il y a plus de 1000 lycéens défaillants.
Voilà.
Plus de 1000 recensés. Un inspecteur m'a donné ce chiffre, il a fait une note là-dessus, au cabinet du ministère de l'Éducation nationale, il lui a dit « Ne vous occupez pas de cela, ce n'est pas notre affaire, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur. » Là, déjà, il y a un problème qui commence, n'est-ce pas ? Puisque vous-même, je crois que vous avez une mission sur ces questions-là auprès du Premier ministre Gilles Kepel.
Oui, c'est-à-dire une mission plus large qui a pour objet de réfléchir et de proposer des solutions face à un problème qui est qu'au moment où se produit tout ce que vous évoquez, les études sur le monde arabe en France se sont totalement effondrées. À Sciences Po, elles ont été fermées par feu Richard Descoings en décembre 2010.
C'est contre vous, donc
En tout cas, je ne sais pas, mais je n'ose pas dire que c'est pour ça que Mohamed Bouazizi, le malheureux, s'est immolé par le feu, car quelques jours plus tard, il s'immolait par le feu, déclenchant les révolutions arabes. Bon, alors là, je pense qu'on va... Les propositions que nous ferons avec les collègues avec qui je travaille, donc, ont pour
déjà,
but...
Il y a eu un problème, vous en êtes le résultat. D'ailleurs, cette réforme radicale très forte qui a été faite dans les années 70... par, je crois, le cas et le veau, dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, qu'il y avait une défaillance, un manque. Ça produit votre génération, qui est importante, bien sûr, mais l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre face à l'Amérique, c'est-à-dire orienter plutôt le regard sur le monde arabe et sur l'islam vers la politologie, et on a liquidé d'une certaine manière l'islamologie, alors qu'on a besoin et de l'un et de l'autre.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et du reste, les gens de mon âge, j'ai 60 ans cette année, donc ça commence à compter, mais quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, que finissais mes études, au pont, nous étions une génération sans père. On avait des grands-parents. On avait
Blachère,
Berck et autres.
Massignon,
voilà.
Cahen.
Là, c'était presque l'arrière-grand-père. Oui. Mais il faut dire ce qu'il est, c'est-à-dire que Berck a castré toute la génération qui l'a suivi. Et donc,
appartient à son caractère.
Oui, voilà. Donc, de ce fait, j'ai beaucoup bénéficié du soutien, d'ailleurs, simplement pour arriver à entrer dans la carrière universitaire de Rémy Levaux, que vous avez mentionné, regretté Rémy Levaux, également dans une certaine mesure de Jean Lecas. Mais quand j'ai formé moi-même des étudiants, ce que j'ai fait jusqu'à ce que les études arabes soient fermées à Sciences Po en décembre 2010, pendant 25 ans, j'avais mis comme principe de base pour entrer dans la filière dont je m'occupais, de même que à l'Académie platonicienne, nul n'entrait s'il était géomètre, nul n'entre ici s'il n'est alors arabisant, turquisant, hébraïsant, berbérophone ou autre, ou iranophone, parce que il me semblait absolument fondamental pour produire du savoir qui avait une valeur sur la région, de connaître les modes de pensée et d'expression des êtres vivants avec lesquels on traitait, si vous voulez. Et paradoxalement, quand j'ai commencé, après avoir travaillé en Égypte avec le livre auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, Le prophète et Pharaon, qui paraît en 1984 en France, quand j'ai commencé à travailler juste après sur la France, ça donnera mon deuxième livre, Les banlieues de l'islam, publié en 1987, j'ai abordé les questions liées à l'émergence de l'islam en France, à la naissance de la religion en France, structurée à ce moment-là, à partir, bien sûr, des travaux des sociologues et autres, mais de mon expérience du monde musulman, et je suis allé écouter ce que les imams disaient dans les mosquées. Alors que les sociologues de l'immigration typique, si j'ose dire, ne s'intéressaient pas à ça. C'était un domaine qu'ils ne connaissaient pas, donc qu'ils considéraient comme sans importance. Et à l'époque, s'intéresser à ces questions de l'islam politique, de la relation entre islam et politique, était très mal perçu dans l'université, dominée par la gauche, une famille de pensée à laquelle j'appartenais également. Et parce que ça donnait le sentiment que, au fond, on rejetait les musulmans dans une altérité qui était la volonté de l'extrême droite, des sionistes, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début. Mais les mêmes qui m'avaient anathématisé comme agent du sionisme et de la réaction, parce que j'écoutais ce que disaient les imams et autres, et que je transcrivais en montrant la totalité du spectre, d'ailleurs, je n'étais pas focalisé sur un enjeu ou un autre, beaucoup d'entre eux, quelques 10 ans plus tard, sont devenus les compagnons de route des frères musulmans et ont créé cette espèce de mouvance islamo-gauchiste qu'on voit autour de Tarek Ramadan, dont le NPA aujourd'hui est un petit peu le produit, le monde hybride des indigènes de la République, etc. Et là, j'ai de nouveau été dénoncé comme réactionnaire, mais je ne sais plus pour les raisons inverses précédentes. Mais ce qui est un...
Je crois que cette alliance est due avant tout à cette espèce de, pour les Occidentaux eux-mêmes, la haine de soi, mais c'est de l'occidentalophobie qui a créé et le refus de l'hégémonie occidentale, même par cette gauche-là, un peu un des derniers avatars du tiers-mondisme, je crois.
Oui, il y a de ça. C'est dans une période historique où les idéaux tiers-mondistes s'effondrent, notamment parce que les régimes qui ont pris le pouvoir à l'indépendance au fond, se sont transformés généralement parce qu'ils ont confisqué tout le processus démocratique en dictature, corrompue, autoritaire, etc.
Bourgeoisie comprador, c'était ça le concept,
voilà.
Non ?
C'était absolument le terme qu'on utilisait à l'époque, quand on était jeune.
Mais c'est Samir Amin, l'Égyptien, qui a passé toute sa carrière universitaire, une bonne partie de sa carrière universitaire, à l'université de Dakar, qui réagit aux derniers événements, à l'arrivée des islamistes au pouvoir. Ça, lui, il a mis un holà à cela, comme Edouard Saïd lui-même, dans le post-face de la toute dernière édition d'Orientalisme, lorsqu'il a constaté qu'Orientalisme est devenu un des bréviaires,
oui,
justement, des islamistes, de tous les identitaires qui travaillent contre, justement, l'Occident. Cette occidentalophobie de laquelle on se sont détachés des esprits éminents comme Edouard Saïd ou comme Samir Amin.
Oui, c'est vrai, mais...
Mais revenons, si vous voulez bien, parce que là, on est allé un peu dans de multiples directions, mais qui sont évidemment la passion que nous avons, vous-même et moi, arabe et française, et cet aller-retour et ce jeu de capillarité que vous avez évoqué. Focalisons et finissons l'émission, je souhaiterais, Gilles Kepel, sur l'Égypte, sur ce qui s'est passé, sur toute cette problématique de la démocratie qui, à mon avis, est admirablement illustré par ce qui se passe en Égypte.
L'Égypte, effectivement, aujourd'hui, apparaît, pour le meilleur ou pour le pire, hein, comme un pays...
Qui était au bord du péril.
...où la structure étatique tient. Alors, on peut considérer que c'est monstrueux, puisque ça signifie une quinzaine de milliers de personnes qui ont été emprisonnées.
Pharaon, prophète.
Voilà, le prophète et Pharaon, oui, on n'en sort pas. D'abord, à côté, il y a la Libye, où c'est le chaos le plus absolu. Un peu plus loin, il y a l'Irak et la Syrie, où c'est également l'effondrement, c'est-à-dire
la fragilité guerre... immense, voilà, de la Tunisie aussi.
Voilà, la guerre de tous contre tous, une situation hobbesienne. En Tunisie, je crois que paradoxalement, enfin, la Tunisie, peut-être du fait de sa faiblesse, est le pays dans lequel les révolutions arabes, c'est le seul qui ne se soit pas complètement enfoncé dans le chaos. À mon sens, c'est dû en grande partie au fait que les classes moyennes séculières, mais aussi une partie des gens de Narda, appartiennent à cette double culture méditerranéenne qui est à la fois fondée dans la connaissance de la tradition, de la culture, de l'héritage multiple du monde arabo-musulman, berbéro, enfin du sud de la Méditerranée, juif également, et aussi de la culture française comme vecteur de la culture occidentale.
C'est dû à une action politique très précise. On parle actuellement du pire de Bourguiba, mais le meilleur de Bourguiba, c'est qu'il avait cette lucidité extraordinaire où il a pris les 4 ou 5 dispositions nécessaire dès les années 50. Au départ, les femmes, le statut personnel, la contraception, la régulation des naissances, l'école, l'enseignement, une école totalement éclairée. Avec ces 3 points, il a créé ce qu'on pourrait appeler une mutation anthropologique. C'est probablement le seul pays arabe qui a connu une mutation anthropologique vers la modernité. Et c'est de cela, c'est cet effet qui fait que un des spécialistes de Nahda, qui connaissent bien Nahda, m'a dit que les militants de Nahda, très souvent, disent leur fierté de se sentir nettement supérieurs intellectuellement à leurs amis,
oui,
de l'international des frères,
oui,
musulmans.
Fait, oui.
Et certains vont jusqu'à dire, après tout, nous sommes les enfants de l'école de Bourguiba.
Oui, il y a de ça. Moi, j'ai souvenir...
Vous avez entendu ça.
Oui, oui, tout à fait. Quand Hamadi Jbali était Premier ministre, même avant qu'il ne devienne, juste après les élections, je l'ai rencontré plusieurs fois, donc, qui était un des dirigeants de Narda, Premier ministre Narda, ingénieur formé en France, ici, aux arts et métiers, et à Paris. Et donc, Khazar, si j'ose dire. Et donc, il me dit, vous savez, les frères musulmans égyptiens et nous, c'est très simple. Eux, ce sont des staliniens. Et nous, c'est plutôt comme le Parti Socialiste Français. Bon, il faut prendre ça, bien sûr, cum grano salis. Donc, effectivement...
Et maintenant, les uns les autres de la même matrice, c'est trop tôt, c'est-à-dire.
Voilà. Il y a, en Tunisie, il y a ça, un compromis. Je n'ose pas dire ça devant vous, à la tunisienne, disons. Mais la question, effectivement, c'est le chaos total, c'est-à-dire la monstruosité. C'est un terme qui est malheureusement galvaudé, mais c'est la barbarie à visage humain. C'est ce qu'on observe aujourd'hui avec tous les moyens postmodernes et virtuels pour s'en faire le diffuseur. Parce que regardez, par exemple, les égorgements, et malheureusement, il faut entrer dans un terme technique, il ne s'agit pas de décapitation, il s'agit d'égorgement, comme on peut le faire pour un animal
pour le sacrifice.
J'ai vu des photos épouvantables diffusées abondamment par l'État islamique.
Déjà à l'époque,
Al-Zarqawi, oui, c'est ça.
Tout récemment.
Et là, on voit les gens, des prisonniers en uniforme, des Syriens par exemple, Alaouites généralement, qui sont tenus par terre, vivants, par les gars de l'État islamique. Certains lui tiennent les mains, comme on tient les pattes de l'animal. L'autre lui tient les cheveux en arrière, pour que la gorge soit bien mise. Et... On égorge avec un petit couteau, donc ça dure très longtemps. Ce sont des scènes absolument intenables. Et ce qui les rend peut-être encore pires, c'est qu'elles sont diffusées partout et elles font partie, vous avez utilisé tout à l'heure le terme qui est malheureusement exact, de romantisme. Le romantisme, ça semble quelque chose de magnifique, ça fait penser aux jeunes filles qui rêvent d'un amoureux.
Le romantisme de Debré qui conduit au Tché, c'est quand même autrement plus digne que
oui.
Le romantisme actuel.
Non, ça ne va pas comparer Régis Debré à Daesh, bien sûr, mais c'est vrai que le romantisme, notamment le romantisme allemand, est porteur ensuite dans ses dérives du totalitarisme le plus délirant, oui. Et là, on a ça. Et qu'est-ce qui fait que ce discours, qui a l'air tellement monstrueux, aujourd'hui
prend
dans les lycées,
crée le désir.
Les lycées français, là, on a un véritable problème. Et c'est aussi la
différence de l'enseignement républicain.
Voilà, de la réflexion que je suis en train de mener par ailleurs. Et ce qui me frappe beaucoup... C'est que, pour revenir à ce que vous disiez au départ, c'est non seulement la destruction des cités, mais c'est la destruction de la cité dans son concept même, c'est-à-dire la construction d'un pacte social entre des individus, entre des groupes
au
qui
sens
sont
grec, qui est parvenu aux Arabes, particulièrement par un des éminents philosophes hellénisants, Farabi, qui a écrit un livre fameux qui s'appelle « Al-Madina al-Fadila »,
voilà.
La cité vertueuse.
Tout à fait. Or, elle est en train d'être détruite, très clairement en ce moment. Alors, peut-être parce qu'elle n'était pas vertueuse, la cité issue de l'indépendance ou la cité issue de Sykes-Picot.
Elle était vraiment vicieuse,
voilà,
on peut le dire.
C'était l'exploitation, la violence et tout ce qu'on veut. Mais... néanmoins, là, la notion qu'on a, c'est celle du chaos, du Léviathan, d'une certaine manière, avec ces scènes épouvantables où, au fond, l'autre est déshumanisé. Quand on comparait, malheureusement, l'égorgement de l'adversaire à celui de l'animal, on réduit l'autre à l'animalité. Vous avez peut-être vu ces images épouvantables aussi en Syrie, après la chute de la base aérienne de près de Raqqa. Tous les soldats, qui étaient pour la plupart des Alaouites, qui étaient dans la base, qui se sont rendus, ont été déshabillés, forcés à courir en caleçon dans le désert et ensuite massacrés. Avec on déshumanise l'individu. Là, on les faisait courir en slip ou en caleçon, pour montrer qu'il n'était plus rien, qu'on leur enlevait, parce que dans l'islam, surtout chez les salafistes, la pudeur ou la pudibonderie a atteint un stade extraordinaire. Vous savez,
par aura.
Exactement, j'allais vous le dire, les aura, qu'on pourrait traduire par le vieux terme de pudenda. Vous avez vu par exemple cet été en France qu'un certain nombre de piscines dans les quartiers populaires où les salafistes sont présents ont vu arriver des jeunes qui venaient se baigner parce qu'il faisait chaud et qui se baignaient avec des pantalons retroussés, au mépris de toutes les règles d'hygiène, parce qu'il ne fallait pas montrer ses cuisses au-dessus du genou, car c'est l'aura. Et donc là, on dénude ces individus, on les met simplement en slip parce qu'on garde finalement la pudeur qui est mise en circulation par le monde le monde commercial dans lequel nous vivons, si vous voulez. Mais on dénude leur aura comme des animaux. Ils ne sont plus dignes de l'humanité telle que les salafistes la décrivent. Et là, effectivement, on est confronté à un énorme problème. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors bien sûr, ça n'est pas un appel ni une mise en cause, mais on n'entend plus. On n'entend plus de voix aujourd'hui qui soit suffisamment audible, qui parle de l'intérieur de la culture musulmane ou des cultures musulmanes. Il ne s'agit pas de l'essentialiser. Moi, je ne suis pas musulman. J'analyse ces phénomènes comme en extériorité. Et qui puisse proposer un autre discours face au grand récit salafiste, même si celui-ci n'est pas dominant. Néanmoins, c'est le grand récit aujourd'hui qui est le plus mobilisateur et qui frappe d'une espèce de stupeur religieuse qui stultifie, si j'ose dire, tous ceux qui le regardent.
Finissons, si vous voulez bien, Gilles Kepel, par revenir sur l'Égypte. Quid de ce qui s'est passé? Est-ce que la survie de l'Égypte est assurée? Qu'en est-il d'une espèce de quasi-brouille entre l'Amérique et l'Égypte, puisqu'on nous dit, les toutes dernières informations que j'ai reçues, qui émanent de la presse égyptienne et arabe, la participation future du maréchal Sisi à l'ONU, à l'Assemblée générale, et la certitude qu'il n'y aura pas de rencontre entre Obama et Sisi. Est-ce que cela est dû au fait que l'opération, le coup du 3 juillet a à ce point perturbé le programme américain qui a été prévu, et qu'en est-il de ce coup? Et par rapport à la démocratie, la réponse que nous devons donner, sans évidemment abdiquer le principe qui est le nôtre, celui de la démocratie, mais cette espèce de mécanisme de défense de la démocratie à tout prix, quoi qu'il arrive, alors qu'il y avait l'enjeu de la survie d'un pays séculaire, millénaire, qui déjà, au temps de l'effondrement de toutes les cités, était le seul à avoir pu résister, et qui avait cette vertu extraordinaire à l'Égypte, c'était très bien connu, c'est que c'était un État intérieur qui n'a jamais pensé aller vers l'extérieur. L'unique expérience de faire de ce pays un pays concurrent a très très vite, sur Ramsès II et par Ramsès II elle-même, reflué vers l'intérieur.
Alors, ce qui est paradoxalement aujourd'hui la raison pour laquelle les États-Unis ne peuvent pas véritablement se passer de l'Égypte, quelles que soient les préventions qu'ils ont sur le régime égyptien, c'est Gaza et c'est Israël. Car, regardez au début de la crise de Gaza, lorsque une réunion s'est tenue à Paris autour de Laurent Fabius et John Kerry pour essayer de trouver les voies d'un cessez-le-feu, on avait fait venir la Turquie et Qatar, qui étaient donc ceux qui parlent au Hamas, si j'ose dire.
Qui appartiennent à la même sphère.
Voilà, des frères musulmans, mais on n'a pas fait venir l'Égypte. L'opération a capoté. Et en fait, c'est l'Égypte qui détient la clé à court terme pour Gaza, dans la mesure où c'est l'Égypte qui peut ouvrir et fermer la frontière à Rafah. C'est l'Égypte qui a asphyxié, l'Égypte du maréchal Sisi, qui a asphyxié le Hamas financièrement en fermant les tunnels. Et c'est l'Égypte qui a été l'intermédiaire qui a permis le cessez-le-feu à Gaza. Alors, je ne sais pas jusqu'où ira ce cessez-le-feu, mais le poids de l'Égypte, même si l'Égypte, je crois que je la décrit dans Passion arabe en ces termes, c'est le géant arabe, un géant qui a de l'arthrose, qui est myope et qui est obèse, peut-être, mais s'il bascule, tout s'effondre. Et donc, dans cet univers où l'équilibre a disparu, la centralité du dodion égyptien, d'une certaine manière, du basculo égyptien, est quelque chose avec lequel, bien sûr, il est extrêmement difficile de jouer pour les pouvoirs extérieurs.
Qu'en est-il, et on finit vraiment là-dessus, Jules Keppel, de ce qui s'est passé en Égypte sur la question, justement, de la démocratie dans une culture comme la culture égyptienne, dans une culture de très grande tradition d'État, mais d'un État profondément incarné, c'est le moins qu'on pourrait dire.
Alors il y a eu, et cet été on a passé sur France Culture, la première semaine de juillet, justement toute une série que j'avais faite avec d'autres personnes qui s'appelait Le Retour d'Égypte, qui était un balayage qu'on peut toujours podcaster, je crois, de l'Égypte de Farouk à Sissi. Voilà, pour c'est formidable. De Farouk à Sissi. Et on voit bien qu'il y a une culture libérale en Égypte qui va jusqu'à la prise de pouvoir par le nasserisme. Elle disparaît. Et la révolution...
La culture libérale est profondément soutenue par le texte, parce qu'il y a eu de très grands esprits dans l'entre-deux-guerres.
Voilà. C'est le moment où il y a l'efflorescence intellectuelle de l'Égypte. Et le nasserisme, finalement, a attiré...
A démocratisé par le bas.
Voilà, ça. Et d'autre part, a attiré une partie de son aura du fait qu'il y avait ces gens qui venaient avant lui, qu'il a d'ailleurs généralement fait partir et chasser. Et l'effondrement de l'université égyptienne date de cette époque-là. Je crois que, justement, je me rappelle que nous en avions eu l'occasion d'en parler un jour au Caire, près de la rue Moïse Ledenallah, tous les deux, il y a quelques années. Et la révolution, au départ... Et je l'ai encore constaté aujourd'hui parmi les jeunes désespérés de la révolution aujourd'hui en Égypte, retrouve cette époque, ses forces de trouver dans le modèle égyptien pré-révolutionnaire, sans reproduire sa stratification sociale, bien sûr. Voilà.
Même si la notion de pacha était très souvent, on a tendance à l'oublier, de mérite.
Oui, contrairement au bey. Oui, le bey est hérité d'une certaine manière, généalogique, alors que le pacha, c'est le grimpeur social. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit en égyptien, dans le dialecte, c'est « hadr yabesh », c'est-à-dire « d'accord, à vos ordres, boss », quoi, comme on dit patron
montez.
Ici. « Chef », voilà, c'est ça, oui. Vous qui montez, exactement. Et or, ça a été avorté. Ça a été avorté d'abord par le frérisme, qui d'une certaine manière... est aussi l'enfant du nasserisme, parce que l'organisation des frères en Égypte, elle est calquée sur le système policier nassérien et sur le système du renseignement nassérien, finalement. Et puis ensuite, ça a été mis à bas par l'arrivée du maréchal Sissi, qui était très ambigu, puisqu'au départ, toutes les forces démocratiques égyptiennes antifréristes sont allés dans le mouvement qu'on appelait le mouvement Tamarrod, c'est-à-dire le mouvement de révolte contre la domination frériste, exactement. Et ensuite, il y a eu une épuration du système, et aujourd'hui, le pays est entre les mains de l'appareil traditionnel.
Dans un pays comme l'Égypte, est-ce qu'un démocrate doit à tout prix soutenir la légitimité électoral qui a conduit et voir en celui qui représente la légitimité n'est autre que l'islamiste Morsi.
C'est un peu le même problème qui s'est posé dans les années 30 où au fond aussi bien Hitler que Mussolini avaient été élus par la majorité du corps électoral.
Merci infiniment Gilles Keppel, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordonné par Dominique Compétissa, le son et la technique étant assurés par Benjamin Thuot, la réalisation, la mise en onde par François Connac. Thank you.
France Culture, il est 16h, nous retrouvons Marie Richeux pour les Nouvelles Vagues.